Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Dexter.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Commencez à vous retracer l'histoire stupéfiante d'un tueur qui fascina des téléspectateurs et suscita leur empathie. Oui, un tueur qui devient votre héros 8 saisons durant, sans pour cela que cela n'en devienne malsain de le regarder. Il faut commencer par la mort. Enfin, ceux qui côtoient la mort en permanence et sont aussi devenus les personnages avec lesquels une empathie s'est créée, les Fishers. Six Feet Under est arrivé alors que les Sopranos triomphaient avec leur 3e saison et prouvait donc que HBO, la chaîne payante, câblée, on appelle ça du premium, dans le langage un peu professionnel, avait réussi son pari. Que Sopranos n'était pas qu'un coup de chance insensé, mais la suite d'une véritable politique éditoriale pour des fictions différentes. Un virage qui était entamé avec déjà Oz. Des séries télé pour ceux qui ne regardaient pas les séries télé. Six Feet Under est une série sur la mort, mais c'est surtout une série sur la vie, une série violente et exacerbée, une série farouchement gonflée et assez stupéfiante. C'est un must, au même titre que Le Prisonnier, que Breaking Bad ou que Les Sopranos, justement. C'est un must qui vous permettra de nourrir votre sériephilie. Je vous exhorte à la voir sur OCS, où elle est disponible en permanence. Et là, Six Feet Under s'est achevé. Nous sommes en 2005 à Monte Carlo. Pour le festival de télévision, et en forme d'hommage, Michael C. Hall est invité. Michael C. Hall a ceci de particulier que Six Feet Under fut son premier rôle devant une caméra. C'est un acteur, mais était plus habitué au théâtre. Il passait de Macbeth à Cabaret. Et son manque d'assurance devant une caméra a parfaitement servi son personnage de David Fisher, un croque-mort gay qui prend la tête de la famille et graduellement sort du placard. J'avais déjà rencontré Michael sur le tournage de la série, mais il était maintenant temps de parler de l'avenir. Et écoutez bien notre échange.
Est-ce que vous accepteriez maintenant une autre série télé, même si elle n'était pas d'une, on va dire, si elle n'était pas une série aussi aussi avant-gardiste que Six Feet Under?
I am definitely spoiled.
J'ai été trop gâté avec cette série. Elle contient tellement de merveilleux personnages, avec des acteurs et des scénaristes incroyables. Je ne pense pas que j'accepterais un rôle dans une série télé tout de suite. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Six Feet Under a été incroyable. Mais l'idée de jouer le même personnage pour une durée aussi longue est quelque chose qui ne m'attire plus vraiment pour l'instant. Rien de définitif, mais je suis impatient de m'essayer à autre chose. Amusant, non? Eh oui, ce que Michael C. Hall ignore, c'est qu'alors que nous avons cette conversation, lui et moi, toute la suite de sa carrière et son passage du stade de très bon acteur au stade de superstar est en route, sans même qu'il le sache. Un an auparavant, le premier roman d'une nouvelle série policière sort en librairie et fait un véritable carton. Ce roman, c'est « Ce cher Dexter » ou « Darkly Dreaming Dexter » de Jeffrey Lindsay. Il a créé un personnage totalement hors norme, un tueur en série, mais un tueur en série qui nous est sympathique. Cela fait presque froid dans le dos, mais le talent de Lindsay est de nous faire vivre les crimes de Dexter, mais aussi de nous en montrer la motivation, la raison. Et lui-même est surpris de la façon enthousiaste avec laquelle son personnage est reçu. Je n'ai jamais imaginé qu'il devienne aussi populaire. Mais j'ai utilisé de nombreux stratagèmes pour ça. Je lui ai donné un passé qui le rendait sympathique à nos yeux. J'ai essayé de le rendre drôle. Et quand il dit « je n'ai pas de sentiments, je ne ressens rien », cela crée une sympathie à son égard. Quand j'ai pu m'entretenir avec le papa de Dexter, ce dernier m'avait aussi raconté que l'origine de son personnage vient d'une réunion particulièrement frustrante qu'il a vécue avec des hommes d'affaires, extrêmement arrogants et tellement insupportables qu'il avait presque envie de les tuer. Une des pensées qui me sont venues pendant que je regardais ces hommes d'affaires est qu'ils se mentent tous les uns les autres. Et cela en permanence. Vous savez, si vous allez à votre travail en faisant un grand sourire, « Bonjour, monsieur !» Un grand sourire au patron, quoi. Et en fait, vous pensez sans doute, quel odieux crétin. Cela fait partie d'une certaine habitude sociale. On se ment, tous, les uns les autres. Et Dexter, lui, il le sait. Il le fait volontairement, parce qu'il a étudié le meilleur moyen de mentir et le meilleur moment pour mentir. Et quelquefois, il croise quelqu'un qui va le percer à jour. Pendant que Lindsay creuse les pensées de son tueur en série et que Michael Seahold se prépare un peu de congé, il y a un diffuseur qui décide de se retrousser les manches. Ce diffuseur, c'est une autre chaîne câblée payante américaine, une autre chaîne premium, comme on dit, qui est concurrente de HBO. Elle s'appelle Showtime. Tout comme HBO, Showtime a pour socle, pour fondation de sa programmation, les films en première exclusivité et les rencontres sportives de prestige. Tout comme HBO, Showtime s'est lancé elle aussi dans la création originale, parce que cela est nécessaire pour leur image de marque, leur réputation et pour se singulariser. Mais, à la différence de HBO, Showtime n'a pas encore trouvé son Soprano à elle, son Six Feet Under. Comprenez, la série si stupéfiante, si différente, qu'elle en devient incontournable, qu'elle devient un peu leur totem. Jusqu'alors, en plus de ses films, Showtime allait dans deux directions éditoriales pour capter l'attention des futurs abonnés. Les séries gays et lesbiennes, avec par exemple la version américaine de Queer as Folk et la série The L Word, et les séries de science-fiction, comme le remake de Au-delà du réel et les versions séries de Poltergeist et de Stargate SG-1. Arrive Dexter. Lindsay pense que sa création littéraire lui serait plus profitable sur le long terme, des années durant, plutôt qu'avec un long métrage qui ne serait sous les projecteurs que 1, 2, 3 mois maximum. Bon, c'est très prosaïque comme attitude, hein, mais ça l'entraîne donc à céder les droits à Showtime plutôt qu'à une production cinéma. Et comme les gens de Showtime sont des petits futés, ils visent pour incarner Dexter le héros d'une série de HBO. Bah tiens, Michael Seahold. Les planètes sont alignées, Michael Seahold ne va pas faire de pause très longtemps, et quand il reçoit le script de l'épisode pilote, il est quasiment obligé de dire oui à un tel personnage. Et oui, parce que Dexter, ce n'est pas un personnage comme les autres. C'est un expert de la police de Miami, et tout spécialement des éclaboussures de sang. Mais c'est aussi un tueur en série. Il a un « dark passenger », comme il le dit, une face sombre qui est en lui, et qui représente son besoin de tuer.
Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen.
Il obéit au code que son père Harry, interprété par James Remar, lui a inculqué quand il a compris que son fils adoptif avait des pulsions meurtrières incontrôlables. Ce code consiste à ne tuer que des gens qui sont reconnus comme des criminels et à le faire dans un environnement soigneusement protégé. Dexter continue de voir le fantôme de son père le guider et le soutenir.
The code of Harry, my foster father, is satisfied. And so am I. Harry was a great cop here in Miami. Taught me how to think like one, taught me how to cover my tracks. I'm a very neat monster.
Tout comme David Fisher, Dexter Morgan côtoie les morts. C'est presque comme si l'un s'occupait des conséquences des actes de l'autre. Un pilote, développé par James Manos Jr., est donc mis en route pour Showtime. Un pilote absolument remarquable qui montre la double vie de Dexter Morgan, l'ironie de la situation, parce que Morgan travaille pour la police de Miami, et lance des trames au long cours. Le pilote est validé ensuite par Showtime, qui donne son feu vert pour la saison 1. À la rentrée 2006, Michael Seahold revient donc sur le petit écran à travers de gigantesques affiches qui nous promettent « A Killer New Series ». Et oui, des affiches qui jouent bien sur le sens du mot « killer », une série qui tue, mais le personnage aussi. La première saison de la série, en 2006, est donc adaptée du roman initial de Jeffrey Lindsay, ce cher Dexter, ce qui ne sera plus le cas pour les saisons suivantes, même s'il existe d'autres romans. Dexter partage sa vie entre sa sœur adoptive, Debra Morgan, et Rita, interprétée par Julie Benz, et ses deux enfants qui lui permettent de lui donner une image de normalité auprès des autres. Dexter va découvrir la vérité sur sa mère, sur son assassinat dans un conteneur et sur lui, enfant, qui est resté prisonnier auprès d'elle deux jours durant, baignant dans son sang avant que Harry ne le sauve et ne l'adopte. Celui qui va diriger la croissance de Dexter, c'est donc Harry, son père adoptif. Mais en réalité, c'est Clyde Phillips. Clyde Phillips, c'est le showrunner de la série qui prend la suite de James Manos Jr., qui lui a développé le pilote d'après le roman. Phillips n'est pas, à l'époque, un producteur superstar à la Stephen G. Cannell ou à la Steven Bochco, mais un regard exercé l'avait déjà remarqué aux commandes de Parker Lewis, une sitcom extrêmement innovante sur sa forme. En 2010, Clyde Phillips est l'invité du Festival du cinéma de Deauville, qui ouvre une section série télé. Je vais modérer une masterclass qu'il va donner avant, mais avec le journaliste Cédric Melon, nous retrouvons Clyde Phillips dans le cadre très détendu du Festival de Deauville. Il va nous raconter quelle a été son inspiration et il va même se confier à nous. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je n'avais pas un bon père. J'ai eu plein de soucis avec lui. Et je l'ai beaucoup exprimé à travers Dexter. Non, pas de soucis. Ça, c'était une inspiration importante. Mais j'ai aussi l'obligation de raconter des histoires intéressantes. Ce n'est pas une série sur moi. C'est sur ce qui peut être le plus évocateur et le plus provocant possible pour nos spectateurs. On a donc besoin d'avoir une histoire dramatique. On a besoin d'un peu de légèreté, d'une histoire d'amour, d'une histoire policière. Avec le personnage de Dexter, on a besoin de le faire évoluer. Il ne peut pas rester le même personnage. Aucun personnage ne peut rester le même année après année. Mais avec Dexter, c'est compliqué parce qu'il est cabossé par la vie. Il est ralenti dans son évolution par ce qui lui est arrivé. Il a besoin d'évoluer. Et nous, on doit surveiller en quelque sorte sa vie et voir comment il bouge chaque saison, ce qu'il aura appris, et comment il va réagir à certains incidents de sa vie. C'est notre défi principal. Dès les saisons 1, Clyde Phillips met donc en route l'évolution du personnage de Dexter et ne le laisse surtout pas devenir le serial killer de la semaine. Il lui oppose à chaque fois un concurrent. Le Ice Truck Killer, qui laisse ses victimes exsangues, inaugure le format de la série, qui opposera chaque saison Dexter à un grand méchant. Pour cette saison 1, il s'avère que le Ice Truck Killer, c'est le nouveau petit ami de Debra, Rudy, donc de la sœur adoptive de Dexter. Et en fait, il se révèle que Rudy, c'est aussi le frère biologique de Dexter Morgan, Brian, qui était à ses côtés dans le conteneur auprès de leur mère morte. Ah ouais, c'est un peu glauque. Dexter va devoir tuer le seul autre membre de sa famille biologique. Mackenzie Hall est tout simplement prodigieux dans le rôle. Il fait passer toute l'ambiguïté du personnage à travers des regards, à travers des attitudes. Il est tellement gêné par les scènes où il découpe ses victimes qu'il demande que seuls les membres essentiels de l'équipe technique soient présents quand sont tournées de telles scènes. Ce n'est qu'au moment de la saison finale que des journalistes sont invités à venir voir enfin le tournage de ces scènes. Le succès d'audience de la première saison, qui fait une moyenne de 2 millions de spectateurs et connaît une spectaculaire augmentation de 79% entre le premier et le dernier épisode, permet de lancer la saison 2 à la rentrée 2007 et elle-même fera 21% d'audience en plus. Bref, c'est un carton pour Showtime. Avec le succès de Dexter, c'est définitivement l'ère du salaud qui s'affirme dans les tendances de séries. Parce qu'avec le carton que fait déjà Dr. House sur la chaîne gratuite Fox depuis 2 ans et le succès critique de The Shield depuis 2002 sur la chaîne FX, le doute n'est plus permis. Le héros d'une série n'est plus systématiquement et obligatoirement le sympathique et bienveillant personnage dans lequel le spectateur peut se projeter. Non, Gregory House est un misanthrope dysfonctionnel, Vic Mackey est un filtripou et en plus un tueur de sang-froid, et avant lui, Tony Soprano est un mafieux que l'on osait montrer en train d'étrangler un indique à main nue. Dorénavant vont débarquer des enquêteurs arrogants et des psychopathes refoulés. Et pourtant, une décennie plus tôt, le sociopathe Jim Profit disparaît au bout de 4 petits épisodes et le Larry Sanders Show et son animateur irascible ne trouvent refuge que sur HBO. C'est donc bel et bien le pari de la fiction différente que faisait Showtime en osant un anti-héros extrême comme personnage principal. Pour la saison 2 de Dexter, Keith Carradine va tenir le rôle de Frank Lundy, un agent du FBI qui arrive à Miami pour enquêter sur le nombre important de cadavres que l'on y découvre d'un seul coup. Il s'agit des cadavres laissés par Dexter au fond de l'eau et qui sont découverts. Dexter devient donc, pour les médias, le boucher de Bay Harbor. Et il devient donc lui-même le grand méchant serial killer de cette saison 2, ce qui est quand même franchement ironique. Rita va croire que les multiples disparitions de Dexter cachent en fait son addiction à la drogue et l'envoie se faire désintoxiquer. Et le sergent Dawkes découvre que Dexter est le boucher de Bay Harbor. Il est retenu prisonnier par ce dernier, et c'est Lila, une amie de Dexter, qui va mettre le feu à l'endroit où il est retenu. Par dépit, Lila va ensuite tenter de supprimer Dexter et les enfants de Rita. Ils échapperont tous à la mort et Dexter traquera Lila jusqu'à Paris pour la supprimer. Clive Phillips, le showrunner de la série, qui écrit aussi toujours un des tout premiers épisodes de chaque saison, nous a expliqué à quel point il vivait les personnages dont il devait diriger le destin. Quand j'ai des blocages dans mon écriture, ce qui ne m'arrive pas très souvent, mais enfin quand même, ça se produit, alors je m'allonge dans mon bureau. Je connais ces personnages tellement bien que je n'ai qu'à attendre qu'ils me parlent. Et ensuite, j'écris ce qu'ils me disent. Je connais leur voix. Je comprends leur voix. En fait, pour la voix off qui parsème chaque épisode, c'est moi qui l'enregistre avant tout. Je ne peux pas toujours faire venir Michael parce qu'il est en tournage. Alors c'est moi qui fais la première version. Et puis ensuite, il enregistre sa voix et le fait brillamment. Les personnages habitent la série, mais j'ai des parties d'eux en moi aussi. Ce que Clive Phillips vient de nous dire est particulièrement fascinant. C'est la fonction même d'un showrunner, maîtriser ses personnages, au point qu'ils vivent littéralement en lui, parce que ce sont des personnages imaginaires et qu'il est seul véritablement à pouvoir maîtriser leur destin.
Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that's denied and unknown to be revealed.
Il y a deux ennemis pour Dexter dans cette saison 3. Un procureur, Miguel Prado, incarné par Jimmy Smith, la vedette de NYPD Blue, de la Los Angeles et de The West Wing, et puis aussi de Star Wars et de Son of Anarchy. Et Prado va s'associer momentanément à Dexter. Et le dit Prado est aussi un meurtrier. Il y a cependant le tueur traditionnel que l'on découvre un peu plus tard dans la saison, le Skinner, le dépeceur. Par contre, question évolution pour Dexter, eh ben on frappe un grand coup. Rita est enceinte, Dexter va lui proposer le mariage. Dexter se déroulant à Miami, on peut se demander si cet expert-là ne va pas finir par croiser l'autre expert de Miami. Ouais, je parle de Horatio Kane, vous savez, celui des experts Miami, justement. Ben, ça aurait pu se faire, hein. Parce que Showtime et CBS, le diffuseur des experts Miami aux États-Unis, en fait, sont parents. Ce sont les deux entités d'une même firme. Et CBS va même, à un moment durant la grève des scénaristes, diffuser sur son antenne des versions expurgées des premiers épisodes de Dexter. Après cette saison 3 un peu banale, Clive Phillips et son équipe décident de frapper un grand coup, de poursuivre l'évolution de Dexter Morgan par un très très gros coup et de confronter Dexter à la possibilité de vivre en famille, une vie normale, avec une femme et des enfants. Clive Phillips nous en avait parlé au festival de Deauville, où donc il était invité. Il recherche désespérément avoir une famille.
Look at his childhood.
Regardez un peu son enfance. Comment il a été trouvé. Il a passé des jours entiers dans ce conteneur de transport, dans un bain de sang, avec son frère, aux côtés des morceaux du corps de sa mère. Puis il a découvert qui a tué son père. Et maintenant, sa fiancée tombe enceinte de lui. Il ne peut que se demander, serais-je capable d'aimer? Ce que je fais va-t-il affecter ma vie de famille? On a eu des réponses à certaines de ces questions. Mais il recherche désespérément à partager sa vie. Et le pire va survenir. Maintenant, il y est. Il a une femme, trois enfants, une maison, des voisins à chacun des quatre côtés de la maison. Il est au milieu du monde. Et pourtant, qui d'autre recherche plus sa discrétion qu'un serial killer? Il a un voisinage qui peut l'observer, n'importe qui peut être témoin de ses allées et venues, tout devient bien plus difficile. Et dans la saison 4, il découvre qu'il y a quelqu'un qui vit exactement comme cela depuis des années. Et la personne que Clive Phillips évoque, c'est le Trinity Killer, alias Arthur Mitchell, incarné par le très grand acteur américain John Lithgow. Dexter va être fasciné par l'équilibre que Arthur Mitchell a réussi à obtenir entre ses activités criminelles et sa vie de famille avec sa femme et ses enfants, tout en bienveillance et en opération de charité. Ils vont donc entrer en contact l'un avec l'autre, passer un moment ensemble, et Dexter va découvrir que la vie de famille d'Arthur n'est pas aussi idyllique que l'on pensait. La fin de la saison a marqué. C'est le début d'un immense changement pour le personnage de Dexter. Le Trinity Killer a assassiné Rita, la femme de Dexter Morgan, chez elle, dans sa baignoire. et il a laissé leur fils, Harrison, 6 mois, au milieu d'une mare de sang, le sang de sa propre mère. Et il reproduit ainsi le traumatisme initial de Dexter Morgan qui assiste bébé au meurtre de sa mère. Clive Phillips, le créateur et producteur exécutif de la série jusqu'alors, la quitte à ce moment-là, sur une note extrêmement haute. 7 nominations aux Emmy Awards, dont un remporté par John Lithgow, et une audience moyenne de 4 700 000 téléspectateurs, en augmentation de 41% sur la saison 3. Pour sa prochaine saison, Dexter va avoir un nouveau showrunner, Chip Johansen, qui a déjà œuvré sur 24 heures chrono. Je les ai laissés avec une situation inextricable, mais pas volontairement, hein, tout de même. Je ne suis pas diabolique. J'ai décidé de quitter la série à la fin de cette année-là et nous avons fait cette fin spectaculaire. Si j'étais revenu dans la salle d'écriture en février dernier pour la saison suivante, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Je veux dire, comment peut-on aller plus loin? Bon, ils trouveront bien, hein. Mais je pense qu'on doit se dépasser. Je pense que c'est une obligation. J'ai discuté avec l'équipe, mais pas sur l'histoire en elle-même, mais plus sur comment on gère toutes ces personnes, comment on parle à Michael. Il y a près de 200 personnes qui bossent sur la série. C'est quand même très difficile à gérer. Ma fille, quand elle était plus jeune, me présentait comme le monsieur qui est président de Dexter. C'est difficile d'être un président bienveillant. Mais non, personne ne connaît l'idée que j'ai eue pour continuer la série. En cette année 2009, Michael C. Hall et Jennifer Carpenter se sont mariés. Dans une interview donnée à TV Guide, Carpenter précise que de toute façon dans la série, Dexter est son frère d'adoption, qu'ils ne sont pas réellement de la même famille. Histoire de rabattre un peu le caquet à tous ceux qui ironisent en disant que Dexter a épousé sa sœur, quoi. Nous sommes en 2010 pour la saison 5. Le monde de Dexter est maintenant totalement déstructuré. Il doit faire face à un sentiment qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas gérer, la culpabilité d'avoir laissé le Trinity Killer assassiner sa femme. Il est donc maintenant veuf et doit gérer sa paternité. On va découvrir Julia Stiles dans le rôle de Lumen Pierce, une jeune femme qui est un peu le pendant féminin de Dexter. Et le grand méchant de cette saison, c'est Jordan Chase, un coach en développement personnel, interprété par Johnny Lee Miller. Il est en partie responsable pour le traumatisme qu'a connu Lumen. Stan, le menteur de Quinn, un ex-flic tombé en disgrâce, est interprété par Peter Weller, Robocop lui-même, qui incarne le personnage. Le premier épisode de cette saison marque un record d'audience. 2 300 000 téléspectateurs, la meilleure audience en 15 ans pour la chaîne Showtime. Sur une échelle de sanglant, parce qu'il est quand même question de parler de ça, cette saison a utilisé plus de 46 litres de faux sang. 46. Par comparaison, la saison 1 nécessitait un peu plus de 26 litres seulement. Hein, je vous donne des statistiques importantes hein, quand même. Tout ça si on en croit des informations fournies par l'accessoiriste en chef Joshua Meltzer. On dénombre aussi à ce stade une 60aine de victimes. Pour revenir dans le monde réel, en janvier 2010, Michael C. Hall révéla qu'il avait été frappé par un cancer et qu'il était maintenant en totale rémission. Il a fait cette révélation quelques jours avant d'apparaître avec Jennifer Carpenter au Golden Globe où il était nominé. En 2011 s'ouvre la saison 6 de Dexter. Un an s'est écoulé depuis le départ de Lumen. Dexter Morgan a réintégré son appartement. Harrison a maintenant 2 ans. Et c'est son arrivée dans une école catholique qui va entraîner la curiosité de Dexter sur ses rapports avec la religion. Dans sa quête mystique, Dexter va solliciter James Gellar, un professeur en religion incarné par Edward James Olmos, le Edward James Olmos de Miami Vice et de Battlestar Galactica. Gellar va aider Dexter dans son enquête sur une succession de crimes à consonance religieuse. Le meurtrier, qu'on surnomme le Doomsday Killer, dispose les corps comme des tableaux religieux. Et un de ses anciens étudiants est Travis Marshall, interprété par Colin Hanks, un expert en artefacts religieux. Contre toute attente, mais bon, on le voyait un peu venir, le Doomsday Killer, c'est Travis. Et Gellar n'est en fait qu'une illusion. Travis l'a assassiné il y a déjà plusieurs années. Sauf que dans la toute dernière scène, c'est au moment où Dexter élimine Travis, comme d'habitude, en lui passant une lame à travers le corps, alors que Travis est attaché sur une table d'opération, que surgit Debra. Ce cliffhanger de la mort qui tue et le coup de fouet nécessaire à une saison qui n'a pas connu le même succès critique que les précédentes. Il y a même une allusion à une attraction amoureuse refoulée entre Debra et son frère qui avait entraîné la série dans une direction un petit peu limite et pas très très appréciée des gens. Et d'ailleurs, le producteur de s'exclamer que ça paraît tout à fait normal d'avoir dans une série un tueur en série, mais par contre, quand on parle de relation entre un frère et une sœur, là c'est... voilà, ça paraît un peu curieux. La saison est encore de nos jours perçue comme le maillon faible de la série, et pourtant, elle fait 10% d'audience de plus que la précédente, 5 500 000 téléspectateurs en moyenne. Scott Buck, qui était producteur sur Six Feet Under et scénariste depuis la saison 2, est maintenant showrunner de la série. Par la suite, il sera showrunner de Iron Fist, la série Marvel de Netflix, et des Inhumans, deux séries de super-héros qui ne sont pas très connues pour être des triomphes artistiques. Mais enfin bon. Et par contre, c'est la dernière saison du contrat initial de Michael C. Hall. On approche de la saison 7 et il va falloir refaire un contrat, donc renégocier. L'accord qui va en découler est de continuer encore pour 2 saisons. La 8e sera la dernière. Et pour cela, Michael C. Hall obtient le salaire de 300 000 dollars par épisode, ce qui le met bien au-dessus de John Hamm de Mad Men ou de David Boreanaz de Bones, par exemple, mais en dessous de Simon Baker ou de Patrick Dempsey, qui eux sont à 350 000 dollars l'épisode. Enfin, je vous dis ça pour avoir quelques références, hein. Mais quand même, pour une série du câble, c'est carrément un record. La saison 7 de Dexter est cruciale. Maintenant, Debra sait tout. Tout est soudain recalibré, dit Michael C. Hall dans une interview. Tout est soudain recontextualisé, plus compliqué qu'avant et plus subtil. Et ce, pas uniquement pour les spectateurs, mais aussi pour nous les acteurs. Scott Buck, le showrunner, précise dans TV Guide que chaque saison, Dexter devenait de plus en plus humain et compatissant. Et maintenant, nous allons montrer des sentiments de jalousie et de colère. La trame romantique entre Dexter et sa sœur est donc abandonnée. Et c'est heureux, dit Jennifer Carpenter, parce que sinon, je vais finir par consulter un psy et j'enverrai la note à Showtime. L'ennemi de Dexter de cette saison, c'est un gangster ukrainien qui s'appelle Isaac Sirko. Il est interprété par Ray Stevenson de la série Rome. Il en veut à Dexter parce que celui a tué son collègue et amant. Et il y a aussi Anna McKay, jouée par Yvonne Stravosky de Chuck, une enquêtrice qui débarque à Miami pour enquêter sur un cold case, une affaire classée, et qui est menacée par son ex. En fin de saison, Deb va tuer la capitaine Maria LaGuerta pour protéger son propre frère. Et une nouvelle fois, cette saison grimpera en audience. 6 100 000 spectateurs, et ça inclut les replays. Le dernier épisode à lui seul fait 3 400 000 spectateurs, un record pour une série sur Showtime. Arrive donc la saison 8, qui est annoncée comme la dernière. Deb a quitté la police, travaille maintenant pour Jacob Elway, un détective privé, interprété par Sean Patrick Flannery, qui était Indiana Jones, dans la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Mais son lien, sa dépendance avec Dexter, reste quand même au cœur de la saison. Anna est de retour parce qu'elle s'est échappée de prison. Et Charlotte Rampling tient le rôle d'une neuropsychiatre spécialisée dans les tueurs en série, la docteure Evelyn Vogel. Elle a passé sa vie à étudier Dexter et connaît pas mal de ses secrets. C'est elle qui a aidé son père à écrire le fameux code de conduite qui lui sert à diriger ses impulsions. Et elle-même est traquée par un autre tueur, le Brain Surgeon, qui prélève, je vous préviens, c'est un peu dégoûtant, qui prélève des parties de cerveau de ses victimes et elle va donc demander l'aide de Dexter. Lors de l'épisode final, extrêmement attendu bien sûr, Debra est blessée, puis laissée en état de mort cérébrale. Dexter va l'emmener alors en mer, puis lui-même, il disparaît. Et dans les toutes dernières scènes, on le retrouve en tant que chauffeur routier en Oregon. Est-il utile de vous dire que cette saison, et surtout ce final, a été extrêmement décrié par les fans, surtout en ce qui concerne une nouvelle vie un petit peu étonnante, chauffeur routier de Dexter. Il a été plusieurs fois question de spin-off, de séries dérivées, mais aucun projet solide ne s'est concrétisé. Et en tout, j'ai fait le compte, enfin pas moi, les gens de TV Guide aux États-Unis, Dexter aura fait 125 victimes. Pour terminer l'histoire du tueur en série Dexter Morgan, je n'ai pas été le rechercher dans un camion dans l'Oregon. Mais j'ai été au festival Cannes Série à Cannes. C'était en 2018. Il y présentait sa nouvelle série Safe, une création de l'auteur Harlan Coben pour C8 et pour Netflix. Une série limitée, c'est-à-dire en clair une mini-série avec un début, un milieu, une fin, un nombre déterminé d'épisodes dès le début, une histoire bouclée. Et vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher de rappeler à Michael C. Hall les mots qu'il avait dit alors qu'on parlait à la fin de Six Feet Under qu'il ne se lancerait plus dans une série longue.
I would never say never, especially...
Je dirais jamais plus jamais, tout spécialement quand on voit ce qui se fait à la télévision. Mais oui, je reste circonspect devant une implication sous une longue durée dans un autre personnage pour une série télé. Mais ouais, j'ai appris en effet à ne jamais dire jamais après Six Feet Under. La dernière des choses que je pensais faire, c'était une autre série. Mais alors, je n'avais pas encore lu le scénario de Dexter. Je n'avais pas encore rencontré ce personnage. J'espère d'ailleurs qu'il existe actuellement des personnages de ce style qui viendront à moi. Et peut-être que cela m'incitera à franchir à nouveau le pas. Mais dans le cas de Safe, le fait que c'était une mini-série était très intéressant pour moi. Pensez que c'est mieux en tant qu'acteur de connaître la fin d'un personnage, de savoir où il va? C'est potentiellement préférable de le savoir. Quand on est impliqué dans un personnage, mais qu'on ignore dans quelle direction cela va aller, oui, ça peut mal tourner. Mais quand j'ai tourné le pilote, par exemple, de Dexter, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde ce qu'il allait devenir. Qu'il allait être papa, que se marier. Mais c'est aussi une partie du plaisir de faire cela. Jouer à un personnage qui évolue avec le temps et qui change, comme nous changeons tous. La semaine prochaine, il sera encore question de crimes, de meurtres et de trahison, mais dans un genre complètement différent. Parce que tout ça se déroulera dans le cadre luxueux de la vie des Carrington et des Colbys. Je vous ferai redécouvrir toute une dynastie. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.